Un Bayern Munich record en attaque, le RB Leipzig de retour en Ligue des Champions, Fribourg éloge de la stabilité, de nouvelles pépites. Yann Diomandé, Luka Voskovic, Ibrahim Maza qui ont brillé, des entraîneurs trop grande gueule et Francfort qui s'est raté. L'After Allemagne tire le bilan de la saison de Bundesliga.
RMC, After Allemagne,
Jérôme Sillon.
Salut à tous, merci de votre fidélité à l'After Allemagne, à écouter, à regarder sur toutes les plateformes et sur la nouvelle chaîne After Télé. Pensez à vous abonner pour ne rater aucun épisode. N'hésitez pas à mettre une note ou écrire un commentaire. Chaque semaine, on part à la découverte des clubs, des joueurs, des histoires du football allemand avec notre drôle de dame, Polo Breitner. Salut Polo.
Bonjour Jérôme, bonjour tout le monde.
Et avec notre invité Patrick Guillou, spécialiste du foot allemand, consultant Bein Sport, le diffuseur officiel de la Bundesliga en France. Salut Patrick.
Bonjour. Bonjour Jérôme, bonjour Polo.
Merci bonjour d'être avec nous Patrick, tu es à Berlin si je me trompe pas.
Oui, je suis arrivé il y a quelques minutes à Berlin et je me prépare pour commenter demain avec Jean-Charles Sabatier la finale de la Coupe d'Allemagne. Le Bayern, justement, contre le VfB Stuttgart, une autre belle confirmation.
Voilà, exactement. Deux équipes qui nous ont fait briller, qui nous ont séduit cette saison, évidemment, en Bundesliga. Alors, messieurs, je vais vous demander vos coups de cœur et vos coups de gueule de cette saison. On va commencer par toi, Patrick. Quel est ton coup de cœur dans cette saison 2025-2026 de Bundesliga ?
Alors bien sûr, il y a le jeu hyper offensif du Bayern, mais mon coup de cœur, peut-être parce que je viens de cette ville, c'est le parcours global du SC Fribourg. On aura peut-être le temps d'en reparler tout à l'heure, mais une 7e place, une demi-finale de Coupe d'Allemagne et une finale d'Europa League, je pense pour un club de la dimension du SC Fribourg, ça nous rabiboche avec le football d'antan et non le football globalisé.
Ouais, bah justement, on peut commencer peut-être par ça aussi. Ça faisait partie de tes coups de cœur, Polo. Fribourg, donc, qui depuis 10 ans en Bundesliga a réalisé 8 top 10, 2 fois 5e, et donc cette finale d'Europa League. Polo, pourquoi tu voulais nous parler justement du Sportclub Freiburg ?
Bah parce que n'oublions pas que c'est le club modèle pour la Ligue allemande et la Fédération allemande. C'est un modèle associatif au sens propre. Il n'y a pas d'investisseurs étrangers, il n'y a pas de fonds d'investissement qui viennent de pays, je vais dire exotiques pour ne pas dire ce que je pense. Et ce qui m'intéresse là-dedans, c'est que c'est un club, et je le dis tous les lundis lorsque je parle de Fribourg, à ne jamais analyser à l'instant T. Ce qu'ils ont fait en 2026 est évidemment impressionnant, mais moi je me rappelle pour la première fois Fribourg qui monte en 1993, qui pendant des années va se battre pour se maintenir, va redescendre, va remonter, etc. Et puis ensuite ils commencent à jouer une qualification en Europa League, ils finissent quatrième, et puis ils apprennent de ce que ça veut dire de ce moment-là, donc ils doivent avoir un effectif plus important, et puis ils ont le plafond de verre en 2023 lorsqu'ils affrontent West Ham pour la première fois pour eux en huitième de finale d'Europa League, puis en 2024 c'est la Juve, évidemment c'est beaucoup trop fort pour Fribourg, mais ils sont encore en huitième de finale d'Europa League. Il y a eu, j'oubliais entre temps, la finale où ils auraient mérité de l'emporter en 2022 contre Leipzig en Coupe d'Allemagne, et là évidemment on a ce parcours extraordinaire d'un club extrêmement stable, 5 coachs depuis les années 90, faut pas l'oublier. Moi, quand j'ai commencé à m'intéresser aux finances des clubs allemands, Fribourg, qui était en Bundesliga, c'était entre 30 et 50 millions d'euros. Donc ça, c'était dans les années 90. Aujourd'hui, il y a 2 ans, ils ont dépassé les 200 millions. Cette année, ils ont fait 160 millions sans Coupe d'Europe. Vous imaginez bien ce qui va se passer l'année prochaine. Ça va devenir une banque suisse avec un centre de formation super performant. Et je pense, mais il y avait un super papier sur Kicker, je crois, si je me rappelle bien, qui disait tout le monde parlant bien de Fribourg, mais si c'est les clubs qui parlent très bien de Fribourg pouvaient adopter le même modèle que Fribourg, ce serait super sympa au minimum pour le foot allemand.
Patrick Guillou, qu'est-ce qui te plaît toi particulièrement dans ce club qui est cher à ton cœur, on le rappelle aussi hein.
Oui, je ne suis forcément pas très objectif quand je parle de Fribourg, c'est ma jeunesse, c'est mon adolescence, c'est ma vie d'étudiant. Et puis, c'est ce club qui grandit sous l'égide de Achim Stocker, le président mythique de ce club de Fribourg. Les ambiances extraordinaires, parce que c'est un public familial, c'est un public d'étudiants, c'est un public où tout le monde se connaît en train de manger sa saucisse et sa bière. On est dans le cliché de la forêt noire, mais tellement vrai. Un stade où il n'y a pas de loge, un stade dans un premier temps où il n'y a pas de tribune couverte en face et où il fait bon de s'y retrouver pour discuter et puis pour regarder un match de foot, en ayant conscience que dans un club comme Fribourg, la défaite fait partie aussi de l'ADN de ce club. Les montées, les descentes dont parlait Polo, jamais il y a eu derrière de bagarre ou d'ultra qui venait au grillage. On acceptait le sort sportif parce qu'on était en phase de construction. Et ensuite, Volker Finke, Christian Streich et Julian Schuster se passent le témoin au niveau des entraîneurs. Et on ne sait pas, ou on sait trop bien où on va. C'est-à-dire que Polo mettait en avant le centre de formation. Et il a été construit, l'académie, sur le stade et l'ancien campus du club qui est devenu champion d'Allemagne, le Freiburg FC, je crois que c'était en 1907. Et derrière, ils ont commencé à construire. Et on le voit à l'image de ce passage de témoin au niveau des entraîneurs, il existe aussi au niveau des joueurs. Quand on voit le mixte des joueurs qui viennent maintenant avec des transferts assez importants, Baptiste Santamaria il y a quelques années, mais aussi Suzuki ou des joueurs comme ça, ils sont couverts, malgré le fait que ce sont des joueurs achetés pour plusieurs dizaines de millions d'euros, par les joueurs qui transmettent ce que c'est le SC Fribourg, comme Griffo, comme Günther, comme Kubler, comme Höhler. Il y a toujours ce passage de témoin. À l'époque, il y avait aussi un Français, Jonathan Schmid, qui l'avait parfaitement compris et parfaitement transmis certains messages. Voilà, une fois qu'on a compris tout ça, on a un petit peu d'appréhension quand le club quitte le Dreisamstadion pour aller à l'Europa Park Stadion. On se dit, tiens, avec 35 000, il y a 10 000 supporters qui viennent de plus et les attentes seront différentes. Grosso modo, je dis bien grosso modo, l'ambiance est restée la même, même si la construction du nouveau stade empêche les vrais supporters de Fribourg toucher leurs joueurs à la sortie du bus, comme c'était le cas au Dreisamstadion.
Oui, effectivement. Fribourg, donc 7e de Bundesliga, une finale d'Europa League, la très belle saison du club de la Forêt-Noire. Autre coup de cœur que tu nous as mentionné, Polo, quand on a préparé l'émission dans cette saison de Bundesliga, c'est le Bayern de Vincent Kompany qui nous a donné le tournis, notamment d'un point de vue offensif. 89 points déjà, c'est le 4e meilleur total de l'histoire de la Bundesliga. 122 buts marqués. Aucune équipe n'avait autant marqué de buts dans une saison de Bundesliga avec 8 matchs, avec au moins 5 buts marqués. Là aussi, c'est une première. Une seule défaite concédée. 25 points pris après avoir été mené. Seul Leverkusen avait réussi à renverser plus de situations lors de la saison du titre historique sous Xabi Alonso. Polo, Vincent Kompany est allé au-delà des attentes finalement qu'on avait autour de lui, tellement le scepticisme était grand à sa signature.
Bah oui, moi c'est surtout ça que je vois, c'est-à-dire que le Bayern soit champion, à la rigueur on est malheureusement, j'ai envie de dire, si on voit les 15 dernières années, habitué. Moi évidemment, je pense que on serait d'accord avec Patrick que peut-être qu'on préférait les années d'avant où ça se finissait, même si le Bayern gagnait une fois sur deux, ça se finissait à la dernière journée, pour ne pas dire lors des arrêts de jeu, je pense à 2001 évidemment, et en fait, moi, ce qui me frappe cette année, c'est que les gens ont le sentiment parfois de dire « Ah ben ouais, le Bayern s'est baladé, 89 points. » On oublie qu'il y a un Dortmund à 73 points, ce qui est exceptionnel pour un second. Mais ce que je vois, moi, c'est qu'en début de saison, et j'avais un peu égratigné Vincent Kompany l'année dernière en disant « Moi, j'acceptais pas, comme beaucoup de personnes, la défaite contre l'Inter, etc. » Mais je trouvais qu'il n'y avait pas assez de jeu. Et en fait, il m'a estomaqué cette saison parce qu'il maîtrise sa communication à merveille. Il fuyait un petit peu l'année dernière des problèmes habituels avec la culture du conflit cher à Uli Hoeneß au Bayern Munich. Il a réussi à construire une équipe offensive extraordinaire. Il a réussi à augmenter le jeu du Bayern. Moi, c'est une véritable surprise et une bonne surprise. Et donc l'écart qu'il a fait avec les autres, qui pourrait rappeler d'autres années, moi, je la trouve exceptionnelle. Et c'est un vrai top, c'est-à-dire que Vincent Kompany, pour moi, malgré le fait que Luis Enrique lui ait quand même, lors du match retour, fait comprendre ce que c'était le football total, voire le football complet, pour employer un terme que j'ai lu dans la presse allemande, est en train de devenir un grand coach européen. Il n'y a pas de problème. Vous imaginez, je prends un exemple qui, moi, me frappe. Harry Kane, qui était potentiellement celui qui pouvait battre le record de buts sur une saison de Lewandowski en Bundesliga, donc les fameux 41, Lewandowski avait lui-même battu le Gerd Müller, donc on est vraiment dans des très 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 grands attaquants. Et ben Vincent Kompany le met sur le banc lors des dernières journées pour éviter, pour qu'il soit frais pour les demi-finales, etc. Et finalement, ça ne fait pas de bruit. Goretzka, extraordinaire. Goretzka qui a passé sa saison quasiment sur le banc, qui est quand même pas n'importe qui, et qui pourrait, si on pense à des anciens joueurs du Bayern, bah, faire le bazar dans la presse, s'exprimer, c'est pas normal que je sois sur le banc. Il a rien dit, et lorsqu'il rentrait, il a toujours été impressionnant, etc. Donc il y a la transition au niveau des gardiens, entre Manuel Neuer et son supposé successeur, Urbich. Moi, je trouve ça extraordinaire que l'ancien apprenne au nouveau, et lorsque l'ancien est blessé, le nouveau arrive et est performant. Moi, j'ai vu tout ça cette saison, j'ai vu un club paradoxalement atypique par rapport à l'histoire du FC Bayern, qui est, je reviens évidemment au FC Hollywood ou d'autres scénarios, je trouve ça assez génial ce qu'on a vu au Bayern Munich, évidemment c'est 122 buts, non mais c'est fou, ils ont écrasé le record de 1972, les 101 buts, quoi, c'est un truc de fou, et donc moi je trouve ce qu'ils ont produit sur le terrain, et ben maintenant, on va devoir être exigeant l'année prochaine avec Vincent Kompany. Mais je cite un journaliste allemand qui a dit, ce qui est impressionnant avec Kompany, c'est qu'il nous a pas réconcilié seulement avec le Bayern ou dans la communication, on va dire journaliste, entraîneur. C'est que Vincent Kompany a aussi réussi à infuser ses idées et sa façon de communiquer à l'intérieur du Bayern Munich. Et on n'a pas vu Lyonnais faire des sorties extraordinaires comme il avait pu le faire, par exemple, à l'époque de Thomas Tuchel.
Patrick Guillou, ton regard, toi, sur la saison et le management de Vincent Kompany, qu'est-ce qui t'impressionne le plus chez le manager belge du Bayern ?
Ouais, c'est difficile de rebondir après Polo et puis de rebondir sur certains points qu'il vient d'énoncer, mais le retour d'un club apaisé au Bayern. Et effectivement, on a toujours l'impression que Uli Hoeneß arrive avec une pompe à essence alors qu'il y a encore quelqu'un qui est en train de se balader avec un briquet pour dire « Tiens, je suis le garant et je veille sur le Bayern ». Il a réussi ce tour de force d'apaiser tout le monde au club, toutes les strates, de se montrer disponible. C'est pas quelque chose et un poncif de dire que Vincent Kompany, le premier au club, est le dernier à partir, ce qui n'était pas le cas avec Nagelsmann, ce qui n'était pas le cas avec Tuchel, c'est ce que lui avait reproché justement Uli Hoeneß, mais il a apporté vraiment cette sérénité, il savait où il allait, il a réussi à tactiquement les joueurs de le suivre. Vous savez, quand vous avez des joueurs qui ont tout gagné, et quand vous êtes un jeune coach, c'est très très difficile de donner l'impression aux joueurs que vous en savez plus qu'eux, qu'il faut leur faire confiance. Un entraîneur au Bayern est mort quand les joueurs ont l'impression que tactiquement, il n'est pas à la hauteur. Et il a montré, il a prouvé surtout qu'il savait, dans certaines situations, par la gestion des temps de jeu, par la gestion tactique, par les changements aussi, bien directement impacté sur les résultats finaux. On a pu le voir à Fribourg, on a pu le voir contre Mayence ces dernières semaines. Je rappelle qu'au moment où on se parle, le Bayern a joué 54 matchs officiels, et je vous le dis parce que je suis en train de préparer la finale, et que le Bayern n'a perdu que 3 fois. Une fois contre Augsbourg, une fois contre Arsenal en phase de groupe, et une fois contre le Paris Saint-Germain dans des matchs aller-retour. Moi, quand vous faites partie d'un staff, vous regardez deux choses, vous êtes jugé sur deux choses. La progression individuelle et la progression collective de votre effectif. Quand vous regardez N-1, quand vous regardez cette saison, vous voyez que même des joueurs comme Goretzka, même des joueurs comme Kimmich, même des joueurs comme Kompany, comme Upamecano, comme Jonathan Tah, vous prenez chaque joueur, il n'y en a pas un qui n'a pas progressé individuellement. Et Kane a changé dans sa façon de jouer. Diaz, c'est pas le même que l'on connaît de Liverpool. Olise a pris encore une dimension supérieure. Et mis à part les joueurs qui reviennent de blessures comme Musiala ou Alphonso Davies, chaque joueur a progressé dans sa culture tactique. Même Stanisic, même Tom Bischoff de l'autre côté. Et donc forcément, le Bayern retrouve cette sérénité qui se dégage. Et pour contredire, si je peux dire, Polo, qui nous disait ces dernières années, c'est très difficile de retrouver un exemple où le Bayern n'est pas champion avant. Polo, quelquefois, comme toi, comme moi, notre mémoire nous fait défaut. Il y a quelques saisons, alors que Dortmund devait battre Mayence
en 2024,
et gagner ce titre de champion. Et,
2023,
et Musiala. Et Musiala qui devient le buteur providentiel. On est sur une phase, je ne sais pas si Polo est d'accord, où le Bayern, par sa manière de jouer, pas par son côté arrogant, retrouve dans l'opinion publique allemande des supporters lambda qui apprécient le Bayern. On a plutôt tendance un club à être détesté, ce club du Bayern, mais le supporter lambda trouve dans la façon de jouer des accointances avec le football qu'ils idéalisent et se retrouvent quelquefois aussi dans le Bayern.
Oui, je suis assez d'accord avec ce que tu dis, Patrick. J'ai oublié de le citer, mais tu l'as dit un petit peu. Moi, ce qui m'a frappé cette saison, c'est comment le Bayern, pas avec une nouvelle génération, avec des joueurs sur les 2-3 dernières années qu'on a dit qu'ils étaient cramés, on n'en voulait même plus en équipe nationale. Je pense à Goretzka, je pense à Kimmich, je pense à Gnabry, qu'on a complètement oublié parce qu'il est blessé en ce moment. Mais moi, la grande réussite de Vincent Kompany, c'est pas forcément son 11 de départ, c'est le fait qu'en sortie de banc, alors qu'en début de saison, on disait « mais il manque peut-être, il faudrait pas qu'il y ait des blessés, etc. », des joueurs comme Gnabry se sont révélés et ont repris la place de Moussiala, qui a un travail énorme à faire pour reprendre sa place de titulaire, que Goretzka n'a rien dit, mais il était toujours là, derrière Kimmich et Pavlovic, qu'en défense centrale, un Jonathan Tah qui débarquait et qu'on appelle un peu le gros nounours en Allemagne parce qu'il n'est pas toujours concentré à 100%, mais il a fait le taf. Voilà, à la rigueur, il n'y a que, malheureusement, Davis qui n'est plus le Davis de 2020. Mais voilà, moi, c'est ça que j'ai adoré, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de problème. Okay. Et Vincent Kompany a réussi à faire un truc, et là, je suis d'accord avec Patrick, complètement neuf, qui a attiré les foules, qui a adoré, que les médias ont adoré, peut-être aussi parce qu'on n'attendait pas trop de ce Bayern-là, et encore une fois, et c'est ça la plus belle surprise, c'est que Vincent Kompany a remis le Bayern à un niveau, et en plus d'une façon esthétique, et d'une façon d'être aimé par les autres, et non pas en écrasant, les autres d'une façon arrogante.
Allez, petite pause dans l'After Allemagne. Oui, vas-y Patrick, je t'en prie.
Ouais, une toute petite chose qui me semble très très importante quand même dans l'année qui vient de se dérouler, c'est l'oral qu'il a reçu au niveau de l'exercice de communication alors qu'il était spontané. C'est les 12 minutes de prise de parole alors que c'était complètement inattendu. Le service com du Bayern n'était pas au courant non plus lorsqu'il a pris position sur ce qui s'était passé face le match Real Benfica. Et sur ses positions contre le racisme, sa provenance, ses origines. Et moi, je me suis permis d'aller le voir et de le féliciter. J'avais rarement vu quelqu'un qui était aussi mature et qui avait eu un discours tellement fort qui dépassait vraiment le cadre du football.
Ouais, il faut le souligner, effectivement. On fait une toute petite pause, quelques secondes, et on se retrouve très vite dans l'After Allemagne pour continuer ce bilan de cette saison de Bundesliga. On est de retour dans l'After Allemagne, toujours avec Paulo Breitner, avec notre invité Patrick Guillou, le consultant spécialiste du football allemand sur Bein Sport, qui diffuse en France la Bundesliga, bien évidemment. Avant votre coup de gueule, messieurs, je voudrais juste, en 30 secondes, que vous me choisissiez votre pépite de la saison en Bundesliga. Je vous donne trois noms. Yann Diomandé du RB Leipzig, l'attaquant ivoirien, Luka Voskovic, le défenseur de Hambourg, et Ibrahim Maza, le milieu de terrain de Leverkusen. Patrick, en 30 secondes, quel joueur tu choisis ?
Incontestablement, Diomandé, parce qu'on n'attendait pas à ce niveau-là de pouvoir chaque week-end montrer l'étendue de son talent, alors qu'ils sont allés le dénicher. Vraiment, il fallait aller le recruter. Il a été décisif. Maintenant, j'attends encore plus de ce joueur. Je rappelle que Leipzig, cette saison, n'a joué qu'un match par semaine, ce qui permettait d'avoir des temps de récupération et des séances d'entraînement beaucoup plus conséquentes et de pouvoir se concentrer chaque week-end sur un seul match. On verra maintenant Diomandé s'il reste à Leipzig, s'il sera capable d'afficher son niveau en jouant tous les trois jours.
28 titularisations, 12 buts et 8 passes décisives en Bundesliga. C'est le joueur qui a réussi le plus de dribbles cette saison dans le championnat allemand avec 115 dribbles réussis, Yann Diomandé. Polo, tu choisis qui ? Diomandé, Voskovic ou Maza ?
Ah, c'est terrible ce que tu fais, parce qu'en fait, la saison a été marquée par la jeunesse, une nouvelle génération. On peut pas oublier Touré d'Offenheim ou Koulibaly à Brême. Il y en a plein partout qui sont le jeune Karl au Bayern. Mais moi, j'ai un faible, c'est peut-être parce que mon faible niveau, j'étais défenseur central. J'ai beaucoup parlé de Maza les lundis, que j'adore, son évolution par rapport à Hertha Berlin, mais c'est Vuskovic. Malheureusement, il va assez. Je pense que Vuskovic est sur la ligne droite pour devenir le plus grand défenseur central d'Europe. Je m'avance rarement sur les noms parce que on est souvent déçu, mais ce joueur, moi je pense qu'en pour sans Vuskovic en défense centrale, ne se maintient pas. Il a tout, il a la technique, il a le vice, il a le petit pas de côté pour mettre les attaquants hors jeu, il a la banane à chaque fois qu'il est en duel avec ses attaquants. Et j'ai lu un article à Hambourg, je crois que c'est au Mopo, le Mopo, où on comparait l'amour des supporters d'Hambourg pour Vuskovic à ce qui s'était passé dans les années 80, donc le grand tambour de victorieux de la Ligue des Champions, évidemment, en 1983 ou de la Bundesliga. Et voilà, donc moi, Vuskovic, j'ai envie de dire malheureusement, parce qu'il y en a un paquet d'autres qu'il faudrait citer quand même.
Parfait. Vos coups de gueule, messieurs, est-ce qu'il y a un coup de gueule particulier pour toi, Patrick, important dans cette saison de Bundesliga ?
Non, c'est deux coups de gueule. C'est par rapport au budget et par rapport au rendu sportif. Alors, on sait très bien, l'argent ne fait pas tout, il faut ici, il faut ça. Mais deux équipes qui ne sont pas au rendez-vous, Francfort et Wolfsburg.
Alors, Francfort, peut-être, Wolfsburg, on le rappelle, à l'heure où on se parle, a fait match nul en barrage aller, donc pour se maintenir en Bundesliga contre Paderborn. Juste un mot sur Francfort, peut-être, effectivement, c'est la plus mauvaise saison de l'Eintracht depuis 4 ans. Patrick ?
Oui, alors, c'est pas dans ses habitudes, mais Crochet, le grand patron du sportif, s'est trompé. Il l'a avoué, il n'a pas été très inspiré. Pas très, très inspiré d'avoir écarté aussi rapidement Topmüller parce qu'il pensait que cette équipe était arrivée au bout avec ce coach-là. Même s'il y a eu Schmidt qui l'a remplacé pour deux matchs, mais il n'a surtout pas été inspiré avec le flop de Riera qui est arrivé. Et vous voyez, l'équilibre dans le football, il est très, très, très fragile. En début de saison, si on écoute les retours de match ou les podcasts de Polo, il va mettre ou il a mis en avant le football offensif de Francfort en ce début de saison. Et puis, le chaos défensif, la succession des matchs font que cette équipe, elle s'est liquéfiée, qu'à la fin, on a une saison calvaire avec une équipe sans vie, fade, sans créativité, qui ne trouve pas le chemin pour aller chercher la Coupe d'Europe. Et derrière, y a le chaos défensif avec Kao Santas qui n'est pas au niveau, avec Arthur Théat qui se cherche encore, Cor qui n'est pas à son niveau également, et que du coup, dans une saison qui est très très compliquée, il va falloir que Crochet trouve le bon coach, il va falloir que Crochet vende pour au moins 50 millions d'euros pour éponger les absences de liquidité qu'il va y avoir dues aux absences, ou du moins à la non-participation à la Coupe d'Europe. Il va devoir réduire l'effectif. Il y a plein de choses que Francfort va devoir faire et retrouver un coach qui va lui permettre de renouer avec son glorieux passé au niveau de l'intensité, au niveau du football offensif, au niveau du jeu de transition et du jeu de possession, parce qu'il faut retrouver à nouveau très rapidement une équipe qui soit, comme on a Saint-Etienne, digne de son public, parce que c'est un des meilleurs de Bundesliga.
Huitième du classement cette saison, l'Eintracht Francfort. Toi, ton coup de gueule, Polo, tu voulais nous parler de ces coachs trop grande gueule, et les grandes gueules, ça nous connaît sur RMC.
Ouais, c'est un petit peu, je trouve. Moi, j'ai adoré la saison 2025-2026 par rapport à l'année dernière, par exemple, parce que j'ai trouvé qu'il y avait un niveau de jeu intéressant, etc. Mais il y a quand même quelque chose qui m'a frappé. C'est que les coachs, et là, Patrick vient de parler d'Albert Riera, c'est-à-dire que les coachs qui ont un porte-voix au lieu de la bouche, au niveau de la bouche, ont tous échoué. Ten Hag en début de saison.
Leverkusen.
Sandro Wagner, moi je l'avais déjà prévu l'année dernière déjà, qui a fait son show avec les médias, qui ont attaqué les médias systématiquement, ben il a ça à pas tenu à Augsbourg, et on a rappelé l'ancien, entre guillemets, Manuel Baum, qui a fait un retour extraordinaire au point de pouvoir se qualifier pour l'Europa Conference League lors de la dernière journée. Et puis Albert Riera, qui est un phénomène, j'ai envie de dire, quand je dis un phénomène, c'est que on a l'impression que le monde entier est son ennemi. Il a commencé, mais le pire, c'est que c'est même pas à la rigueur qu'ils s'en prennent en journaliste en disant vous comprenez rien, etc., que c'est pas un cirque, on n'est pas au bar, etc. Des phrases qu'il a dit comme ça. Mais lorsque les médias ont commencé à dire qu'ils s'entendaient pas avec tel joueur, ou que Ritsu Doan il l'appelait par son nom, ou alors qu'avec un autre joueur il préférait envoyer son entraîneur adjoint pour discuter avec lui, ou qu'il estime que Burkhardt, qui était le meilleur buteur de la saison malgré sa blessure, était un peu trop gras, etc. Quand il a commencé, je me rappelle au début, à critiquer l'effectif, alors que tu vois que Francfort, depuis deux ans, a frôlé les 400 millions de chiffres d'affaires, je dis, qu'est-ce que tu veux comme effectif? Tu veux qu'on aille trouver Messi, Ronaldo? C'est Francfort. Francfort, c'est une superbe adresse en Allemagne, mais Francfort a gagné juste, entre guillemets, l'Europa League en 2022. Je veux dire, c'est pas un club qui est en demi-finale de Ligue des Champions systématiquement, qui est sur une phase d'évolution extraordinaire. Et ce que j'ai trouvé génial là-dedans, c'est que paradoxalement, Moi j'avais dit, hein, Sandro Wagner à Augsbourg, c'est comme t'amènes une énorme discothèque dans une petite ville de province. Donc ça, au bout d'un moment, ça risque de devenir compliqué. Alors ça peut fonctionner, ça a explosé en vol. Albert Hiera, il a fait son show, mais je trouve, je comprends même pas. Moi j'aurais été directeur sportif à l'époque. Je serais directeur, je comprendrais pas, je comprends même pas comment ils sont allés le chercher d'ailleurs, parce qu'il avait déjà un passif, on va dire, sur certains clubs. Et puis évidemment Ten Hag, dont on nous a fait comprendre à Leverkusen, je pense à Simon Rolfes, que il y avait un Ten Hag qu'on connaissait version allemande, mais c'était avant le Ten Hag de Manchester United. Et tous ces gens-là ont été remplacés par des coachs beaucoup plus calmes, Casper Juhlmann, etc., qui d'ailleurs risquent de sauter. Moi, j'arrive pas à le comprendre au passage, hein, parce que le gars, c'est pas son effectif. Il récupère en cours de saison, même si c'est au début, une équipe qui est mal embarquée. Moi, ce que je vois, c'est que ceux qui ont bossé, les Teseux, évidemment, Urs Fischer à Mayence, Mayence à la mi-saison, celui qui dit que Mayence va se sauver, il faut vraiment qu'il soit devin, hein, parce que c'est pas évident du tout. Donc, tous ces Manuel Baum, etc., qui a fait un retour extraordinaire, évidemment, à Fribourg, le fait d'aller une nouvelle fois se qualifier en Coupe d'Europe, moi, c'était ça. C'est-à-dire que les coachs qui ont ouvert leur bouche pour dire c'est moi la star, ils ont tous sauté. Voilà, c'est aussi simple que ça.
Patrick, une petite
Non.
réaction.
Ouais, parce que c'est juste pour apporter un éclairage différent sur sur certains flops entraîneurs. Alors pas parce que je suis pour la corporation, parce que je suis un ancien adjoint, mais il y a des choses qu'il faut savoir. Concernant Casper Juhlmann, par exemple, comme Polo, je lis beaucoup les interventions, j'ai aussi encore quelques joueurs ou quelques remontées d'agents. Et donc, du coup, pour Casper Juhlmann, l'interrogation, elle est, est-ce qu'il arrive encore à se motiver pour être présent tous les 3 jours. Vous voyez, quand vous êtes sélectionneur, quand vous avez un rythme complètement différent que quand vous êtes sous pression et de se refocaliser tout de suite, reconcentrer sur le match suivant. Il a plus l'âme, ou il est devenu plus l'âme d'un sélectionneur, et dans les discussions qu'il a pu avoir, ça a transpiré. Donc, il faut respecter aussi ses envies. On va voir s'il veut, il veut rester. À mon avis, ils sont déjà en train de chercher un nouveau coach. Et Casper Juhlmann peut éventuellement, s'il en a encore envie, rebondir en tant que sélectionneur qui lui correspondra mieux. Ensuite, concernant Sandro Wagner, quand Polo, dans le conducteur, avait signalé Wagner, je pensais qu'il parlait de l'entraîneur de Cologne. Et donc, j'ai même plus fait le lien pour vous dire que c'était une météorite avec le Sandro Wagner qui maîtrisait la com, qui était un des meilleurs consultants en Allemagne. Et qui tapait avec la grosse caisse en disant, si on l'écoutait, qu'il allait être le prochain champion d'Allemagne, et c'était fini, la Graue Maus, le club avec le costume gris de Augsbourg, et vous allez voir ce que vous allez voir. Et en plus, Polo, cette équipe de Augsbourg gagne avec Sandro Wagner son premier match à Fribourg, ce qui lui donne encore une caisse résonance supplémentaire pour après disparaître à petit feu, match après match, et de ne plus trouver la solution alors qu'il l'a donnée systématiquement. Ça ressemble curieusement à certains qu'on peut éventuellement reconnaître en France. Mais il a le mérite de dire ce qu'il pense. Il l'a toujours fait. C'est toujours quelqu'un qui s'est battu bec et ongles pour avoir sa place au soleil. Et donc, voilà, il a disparu. On va voir comment il va rebondir. Quand vous êtes un jeune entraîneur, le poste le plus important, ce n'est pas le premier, c'est le deuxième, pour savoir si vous allez faire carrière derrière ou si vous allez disparaître des écrans radars. Concernant Riera, j'ai beaucoup apprécié dans l'analyse de l'échec de Francfort, celle de Markus Kröche qui l'a mis en place, et en disant que quand vous êtes, et ça c'est à réfléchir et à méditer pour l'ensemble des dirigeants dans tous les clubs, et à chaque division, il a dit: j'ai fait une erreur stratégique qui ne me ressemble pas, parce que j'ai choisi un entraîneur inexpérimenté dans une situation compliquée, et j'aurais pas dû faire ça, j'aurais dû prendre un entraîneur beaucoup plus mature. Et la deuxième chose qu'il a avoué, c'est qu'il aurait dû prendre un entraîneur qui connaissait le championnat. La connaissance d'un championnat dans des clubs qui sont en crise est prépondérante, et là il s'est trompé, il s'est fourvoyé, mais il a eu le mérite, Markus Kröche, de le reconnaître.
Voilà, c'était le bilan de la saison Bundesliga 2025-2026 de l'After Allemagne, avec Polo Breitner, avec Patrick Guillou. Évidemment, la Bundesliga, c'est à retrouver sur beIN Sport. Merci beaucoup, Patrick.
Tchuss.
Bonne finale de Coupe d'Allemagne, ce sera également à vivre sur beIN Sport et également sur RMC, bien évidemment. Merci, Patrick Guillou, merci, Polo. Et l'After Allemagne revient la semaine prochaine. Ciao.
RMC, After Allemagne.